Ici, c'est Jérusalem. Jérusalem, la Jérusalem céleste, la Jérusalem foulée par les pas augustes de ceux qui nous ont précédés ici même à l'oratoire. C'est la Jérusalem que nous avons continué à bâtir ces dernières années avec passion, avec enthousiasme. C'est la Jérusalem où nous trouvons les forces et le désir brûlant de poursuivre le combat pour qu'il y ait toujours des lieux comme celui-ci et tant d'autres, à vrai dire. Des lieux où il soit possible de proclamer la grâce et la paix au tout venant. La grâce et la paix en abondance. Où il soit possible de célébrer la vie. Où il soit possible de forger notre espérance. Une espérance selon ce que permet d'accomplir l'espérance forgée au creuset de l'Éternel et non avec les glaives barbares. Forger l'espérance avec ce que nous comprenons de l'idéal forgé auprès de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus. Voilà ce que nous entendons célébrer ici dimanche après dimanche et aujourd'hui encore. Et pour cela, je vous propose de nous placer résolument devant l'Éternel avec le chant du psaume indiqué sur votre livret liturgique, ce psaume 42. Tous les chants que nous allons chanter sont issus du recueil arc-en-ciel et non louanges et prières. C'est une façon de vous préparer et de me préparer au recueil arc-en-ciel utilisé au temple de Maglone à Montpellier. Chantons quand même de bon cœur.
Thank you.
En préparant ce culte, quelques-uns parmi vous n'ont pas manqué de dire que tout était fait pour que ce soit un véritable culte d'action de grâce. Terme technique pour parler des obsèques. Alors, transportons-nous à Vienne. Nous sommes le 1er avril 1989. Un cercueil repose sur le carrosse impérial et se dirige vers l'église des Capucins. Le chambellan frappe trois coups sur la lourde porte de l'église. De l'intérieur, le sacristain, avec sa gouaille toute viennoise, sinon parisienne, répond « Qui demande à entrer ?» Le chambellan répond « Sa Majesté Zita, par la grâce de Dieu, impératrice d'Autriche, reine apostolique de Hongrie, reine de Bohême, de Dalmatie, Croatie, Slavonie, Galicie, Dolomérie et Illyrie, reine de Jérusalem, archiduchesse d'Autriche, grande duchesse de Toscane et de Cracovie, duchesse de Lorraine, de Salzbourg, Styrie, Carinthie, Carniole et Bucovine, grande duchesse de Transylvanie, margravine de Moravie, duchesse de Haute et Basse Silésie, de Modène, Plaisance et Gustala, d'Auschwitz et de Stazor, de Teschen, Frioul, Raguse et Zara, comtesse princesse de Habsbourg et Tyrol, de Kyburg, Goritz et Gradiska, princesse de Trente et de Bressanone, marquise de Haute et Basse Lusace et en Istrie, comtesse de Hohenems, Feldekirch, Bregenz et Sonnenberg, souveraine de Trieste, de Cattaro, dans la marge de Vende, grande voïvode de la voïvodie de Serbie, née princesse royale de Bourbon, princesse de Parme. La réponse du sacristain est sans appel. Je ne la connais pas. La porte demeure fermée. Une seconde fois, le chambellan frappe trois coups. Qui demande à entrer ? Sa Majesté Zita, impératrice et reine. Je ne la connais pas. Pour la troisième fois, résonne une série de trois coups. Qui demande à entrer ? Zita, une personne mortelle et pécheresse. Qu'elle entre. Frères et sœurs, une façon simple de dire l'Évangile, c'est que nous n'avons nul besoin de titres de gloire, de fonction, d'un compte bancaire imposant. À vrai dire, peu importe, et je le dis avec gravité, peu importe que nous ayons remporté le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et même le bouclier de Brennus, puisqu'administrativement parlant, la circonscription de l'oratoire est Île-de-France. Peu importe les nombreux motifs de fierté que nous pouvons avoir ici même, notre seule humanité compte. Notre seule fragilité est requise. Notre seule capacité à recevoir de l'Éternel le désir de vivre, le goût des choses réjouissantes est nécessaire. Seul cela compte vraiment, et c'est ce qui est disponible pour nous. L'Évangile ne nous annonce pas autre chose qu'il n'est qu'à accueillir la justice selon l'Éternel, c'est-à-dire l'amour inconditionnel du prochain, celui qui s'approche de nous, et toutes choses nous seront données en plus. Ce n'est peut-être pas la plus belle, ce n'est peut-être pas la plus complète sur le plan théologique, ce n'est certainement pas l'ultime, mais la confession de foi dite de l'oratoire est notre confession de foi. Et c'est celle que je décide de vous dire aujourd'hui, parce que c'est celle que j'ai eu plaisir à partager avec vous, qui êtes cette communauté que j'aime tant. Et je vous propose de vous lever pour que nous nous associons ensemble à ces mots qui nous viennent et qui nous succéderont. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité, la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit, pour former un seul corps. La victoire par laquelle la violence du monde est vaincue, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. J'entends donc ce Te Deum qui va aussi bien en prolongement d'une confession de foi que pour les obsèques. Nous chanterons ces quatre strophes dans la version arc-en-ciel, donc, ce qui implique qu'il n'y a pas la répétition finale à la fin de chaque strophe. Gloire à Dieu sur la terre et dans les cieux, et d'éternité en éternité. Amen. Frères et sœurs, prenons place. Celles et ceux qui sont debout au fond peuvent tout à fait traverser le temple et venir prendre place sur les tribunes. Il y a encore des places sur les bancs ici même, ou dans la tribune qui est en face. Je ne dis pas que la prédication sera extrêmement longue, mais peut-être faut-il mieux être quand même confortablement installé. Alors évidemment, le choix du texte biblique a été une épreuve épouvantable. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Il y avait cette évidence que quelques-uns m'ont soufflé dans l'oreille, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Prends donc l'évangile selon Jean. Il est utile pour vous que je m'en aille. L'actualité récente me faisait dire qu'il serait bon de prendre la sortie d'Égypte. On appelle ça l'Exode, et j'aurais intitulé la prédication « Hébreuxit ». C'est dans le livre du Lévitique que j'ai retenu un passage biblique. Inutile d'ouvrir votre Bible, ça va aller assez vite. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 10, Je vais vous lire le verset 16a dans la version de Louis II. Nous reviendrons après sur la traduction hébraïque. Chapitre 10 du livre du Lévitique, verset 16. Moïse chercha le bouc pour le péché. Je vous avais prévenu que ce serait assez rapide. Recueillons-nous maintenant dans la prière. Éternel, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et transforme notre vie. Éternel, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Éternel, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté. Ce souffle de vie qui réveille les hommes et les femmes et les invite à te suivre. Chers frères et sœurs, le cœur de la Torah n'est pas l'amour du prochain. Le cœur de la Torah n'est pas non plus l'amour de Dieu. Le cœur de la Torah n'est pas plus le respect de la loi de Dieu. Le cœur de la Torah est, au sens strict du terme, ce bout de verset pour le moins incongru, où il est question de Moïse, du grand Moïse, qui cherche le bouc du péché. Voilà le cœur même de la Torah. La Torah est composée de 79 976 mots. Les moines Massoret ont fait le décompte. À partir de là, il est donc possible de trouver le centre de la Torah. La Torah étant composée d'un nombre pair de mots, son centre est donc entre deux mots. Ces deux mots sont dans ce verset biblique. Notons déjà que si le centre de la Torah est entre deux mots, cela signifie que le centre de la Torah est un espace vide. C'est un blanc du texte, ce qui ne sature pas notre imaginaire, mais au contraire, donne libre cours à notre imagination, à notre créativité. C'est le lieu de tous les possibles. Mais il y a encore plus intéressant que ce centre vide de la Torah, ce centre vidé de toute substance, cette sorte de tombeau vide, puisque le théologien Schleiermacher disait que les écrits saints sont tels un mausolée, qui atteste qu'un esprit brillant était présent, mais qu'il n'est plus. Oui, le centre de la Torah est vidé de toute substance qui pourrait être vénérée, dont nous pourrions peut-être un jour faire une relique. Le centre de la Torah est donc entre deux mots, qui sont d'ailleurs deux verbes, ce qui au passage indique le caractère dynamique et de ce texte et du centre de la Torah. Ces deux verbes sont deux verbes auxquels nos traductions françaises ne rendent pas vraiment justice, puisque vous n'avez entendu qu'un seul verbe, Moïse qui cherche le bouc du péché. Dans la version hébraïque, une traduction aussi littérale que possible donnerait le bouc du péché, cherché, il a cherché Moïse. Et c'est donc entre les deux occurrences du verbe chercher que se trouve le centre de la Torah. Le cœur même de la Torah, qui est indiqué dans les éditions hébraïques par un petit signe, voire par une mise en page spécifique, est un espace vide inclus entre deux fois le même verbe darash, qui signifie chercher. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce constat est que ce cœur de la Torah, qui indique certainement une manière d'être croyant, qui indique peut-être l'art d'être croyant, consiste à être chercheur. Chercher peut être le propre du croyant. Et non pas chercher une fois et se satisfaire de ce qu'on a trouvé, mais chercher et chercher encore, à la manière de Moïse, qui ne s'est pas contenté d'une recherche superficielle, qui ne s'est pas contenté de rechercher en première intention. Certaines éditions hébraïques vont à la ligne après la première occurrence du verbe darash. C'est une manière de dire que lorsque nous pensons être allés au bout de la recherche, nous ne sommes en fait qu'au début d'une nouvelle recherche. Le Talmud, cette vaste compilation de commentaires et de méditations que les rabbins ont fournies au fil des siècles au sujet de la Torah, n'ont pas de page une. Le Talmud n'a pas de page une. C'est une manière de dire qu'aussi loin que tu seras allé dans la méditation du texte biblique, tu n'as toujours pas atteint la première page. Alors cet aspect des choses n'est pas simplement anecdotique. Cet aspect des choses a des conséquences très précises qui nous concernent au plus haut point ici même. Oui, ici même. Parce que cet art de vivre indique l'impossibilité pour le croyant de s'enfermer dans un dogmatisme, de considérer qu'il est un moment de la vie où l'on détient la vérité et qu'il est possible de s'en prévaloir contre autrui. Ce que dit ce texte biblique, le cœur de la Torah, est que le croyant est un mendiant. Il ne possède pas, il recherche, peut-être même parfois implore-t-il. Le croyant est un mendiant de la vérité. Le croyant, mieux que quiconque, sait qu'on ne sait rien sur Dieu, qu'on ne sait rien sur la vie selon Dieu, ou si peu de choses, qu'il est totalement illégitime de vouloir imposer ses convictions à autrui. Le propre des croyants qui sont des chercheurs est d'avoir cassé les idoles, d'être sorti d'une religion qui aime les certitudes et qui se nourrit d'un sentiment de supériorité sur ceux qui ne savent pas. Même Moïse, le grand Moïse, a cherché et a cherché encore. Nous ne savons pas, ou si peu. En ce sens, nous sommes véritablement des agnostiques, au sens où notre foi n'est pas un catalogue de vérités souvent peu crédibles qu'il faudrait tenir pour vraies. et que nous nous transmettons de bouche de pasteur à oreille de paroissien, sans dégradation du message, bien entendu. Nous, c'est le téléphone protestant qui marche. Notre foi n'est pas dans ce registre de transmission-là. Notre foi est ce mouvement incessant de la recherche qui se passionne pour ce qu'est la vie et qui, par conséquent, est toujours en alerte, toujours à faire des découvertes, toujours à s'émerveiller de ce que la vie recèle en termes de richesse, de beauté et parfois aussi de vicissitude. Notre cher Théodore Monod était qualifié de chercheur d'absolu. Je ne saurais mieux dire de quelle manière qualifier les croyants. Lorsque nous nous mettons à hésiter, lorsque nous sommes tentés de nous réfugier dans une orthodoxie de la pensée, une sorte d'idéologie prête à porter, pensons à Moïse, le grand législateur, celui qui avait toute la loi en tête et au cœur, lui qui n'ignorait rien de la loi et qui pourtant ne sait pas où se trouve le bouc du péché. Le bouc du péché, l'un des éléments principaux du culte israélite. Le bouc du péché, le bouc qu'on utilise pour Yom Kippour, la fête centrale de la foi israélite. Avec ce verset, nous sommes au cœur du cœur. Et ce verset indique que Moïse, qui se pense être le maître de la loi, est dépassé par les événements. Dépassé, mais pas perdu, parce qu'il se met à chercher et chercher encore. Alors souvenons-nous que la vie excède toujours la loi, que la vie excède toujours les règlements, que la vie excède toujours les définitions. N'oublions jamais que les réponses ne sont jamais totalement dans les livres, et pas plus dans la Bible, dont le centre de la Torah est un espace vide, placé sous la bonne garde de deux occurrences du verbe darash, chercher. Je disais que cet aspect nous concerne au plus haut point, nous, personnellement, ici même, parce que je pressens bien que notre vocation particulière, est certainement de veiller à ce que jamais la recherche ne s'arrête. Pour une part, notre vocation, et je le dis peut-être sous forme d'une boutade, pour une part, notre vocation est de chercher des chercheurs, lorsque notre entourage se met à trouver des trouveurs. J'ai parlé de la Torah, j'ai parlé du Talmud. Il me faut maintenant parler d'un autre objet fondamental de la tradition rabbinique, le Midrash, bien évidemment. Son seul nom évoque peut-être déjà ce matin, ici même, vous qui vous êtes quand même un peu familiarisé à l'hébreu, la parenté qui existe avec le verbe darash, Midrash, darash. Le Midrash, c'est un recueil d'interprétations et de commentaires rabbiniques. Il est effectivement issu de la racine darash, chercher. Le Midrash, c'est l'interprétation de la Torah, c'est la recherche du sens. Cette recherche, cette interprétation, si vous ouvrez les Midrashim, est tout sauf monotone. Elle tisse en son sein de multiples interprétations qui s'efforcent de faire résonner la vie en ses multiples facettes, et de faire résonner la puissance des textes bibliques dans de nouveaux contextes, dans de nouvelles situations, de nous les faire entendre à nouveaux frais. Peut-être sont-ce des prédications mises en recueil. Et les évangiles font cela aussi. Les évangiles sont un midrash, le midrash de la Bible hébraïque, destiné à ressusciter les mots d'autrefois, et à restituer le sens de ces vieilles paroles qui n'ont pas perdu leur fraîcheur, mais qui parfois perdent leurs lecteurs, leurs interprètes, leurs chercheurs. Je crois qu'il n'y a rien de plus faux que de dire que le christianisme est la religion du livre. Ce serait faire de notre religion une religion fétichiste. Le christianisme, à l'instar de toute religion ayant des textes symboliques à sa disposition, mais ayant à cœur de tendre vers ce qu'il y a de plus ultime dans la vie, le christianisme est une religion de l'interprétation des textes. Et cela change tout. Chaque génération qui vient au monde ne peut pas se contenter de l'état de la religion qu'il trouve ou qu'elle reçoit de ses aînés. Nous le savons bien, nous devons faire face à de nouveaux défis. Nous devons faire face à des situations que ne connaissaient pas les rédacteurs de la Bible. Les croyants sont donc appelés à répondre à de nouveaux défis, à de nouvelles sollicitations, avec leur génie propre, avec leur expertise personnelle. De même que Moïse fait face à une situation inédite, quelque chose qui n'est pas dans la loi, quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, quelque chose qui n'a pas été réglementé. Il doit s'adapter et improviser. Il interroge donc son entourage. Il va interroger les fils d'Aaron. Il interroge plusieurs réalités pour comprendre et donc pour donner du sens. Le bouc, qui devait être consommé en partie dans la partie sainte du temple, a en fait été entièrement brûlé parce que les prêtres ne s'estimaient pas assez purs pour effectuer le rituel prévu. Moïse, en cherchant et en cherchant encore, interprète les événements et il va pouvoir sortir de la colère qui était soudainement montée en lui et qui s'était emportée contre les fils d'Aaron. Il aurait pu s'en tenir à une vision orthodoxe du monde et refuser d'entendre la part de vérité dont Aaron et ses fils étaient porteurs. Mais il se lance dans l'interprétation des signes et cela lui conduira à mettre un terme à la violence qui montait en lui. Comment oublier ce que furent nos derniers mois et peut-être nos dernières années dans ce lieu? Je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons évité que le monde se défasse, pour reprendre la formule d'Albert Camus. Mais nous avons pris notre part, une part honorable, je crois, dans l'œuvre de pacification indispensable dans ces périodes de haine, de terreur, de malhonnêteté et de clivage. Je crois qu'au cœur d'une société particulièrement violente, nous avons fait de notre mieux pour déjà ne pas nous effondrer nous-mêmes, ce qui n'est pas rien, mais aussi pour engager une dynamique propre à rendre le monde un peu plus vivable. Au cœur de cette violence, je crois que nous avons essayé d'être tel Moïse au cœur de la Torah. Nous avons cherché et cherché encore, et nous ne cessons pas de le faire, à vrai dire. Nous n'avons rien ignoré des affrontements politiques qui menaçaient et menacent encore de déchirer notre pays. Nous n'avons pas sous-estimé les défiances entre membres des différentes communautés de l'Hexagone. Nous n'avons pas fermé les yeux sur les drames qui se répandaient au Proche-Orient, puis au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe centrale même. Et nous ne nous sommes pas repliés dans notre cocon paroissial lorsqu'a été semée la terreur auprès de nous. Nous n'avons pas fermé nos bras aux réfugiés qui aspiraient tout simplement à ne pas mourir. Alors certainement, nous aurions pu faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Mais à vrai dire, nous n'avons pas fini notre besogne. Nous n'avons pas encore fini de chercher à comprendre ce qui arrive, ce qui nous arrive. De même que nous n'avons pas fini de chercher comment injecter un peu plus de paix, un peu plus de justice, un peu plus d'intelligence aussi. Beaucoup plus de joie en tout cas, parmi nous et autour de nous. Et c'est là que se trouve l'Évangile qui nous mobilise, dans le soin infini que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Je disais que l'amour du prochain n'est pas le cœur de la Torah, et je persiste. L'Évangile n'est pas tant dans la charité que nous pouvons déployer, que dans la recherche infinie qui donne sens à ce que nous vivons, qui donne sens à nos intuitions, à nos désirs, et qui nous indique le sens de ce que nous appelons le règne de Dieu. L'Évangile oriente notre foi en lui indiquant son objet. Si chercher est l'art du croyant, si l'interprétation infinie est la tâche du croyant, notre objet, l'objet du croyant, Ce sur quoi nous devons porter notre regard, c'est l'humanité. En cherchant, Moïse se met à chercher les fils d'Aaron, au sens où un adolescent cherche ses parents d'ailleurs. Oui, il les cherche, à la manière peut-être aussi du personnage de Robert De Niro dans cette scène mémorable de Taxi Driver, où il s'entraîne à se quereller avec un personnage imaginaire qui pourra être plus tard l'objet de sa violence. You talking to me? You talking to me? Et il fait comme cela grimper la violence. S'il n'est pas sûr que Moïse soit beaucoup plus pacifique que le personnage du film en question, il est manifeste en tout cas qu'il n'a pas que la violence chevillée au corps. Sa colère contre les fils d'Aaron est d'abord une mauvaise manière de faire quelque chose de ce qui le travaille en profondeur, sa volonté que tout aille bien pour les personnes dont il a la responsabilité. Et il se dit que c'est par l'application stricte de la loi que les choses vont bien se passer. Mais il pressent que cela est insuffisant, à vrai dire. Moïse est inutilement dur dans un premier temps, mais il se ressaisit, parce que sa recherche est incessante. Sa quête de vérité le conduit à se laisser convaincre par l'explication donnée par Aaron. Et du coup, nous découvrons un Moïse qui n'a rien d'un fanatique obsédé par l'application à tout prix des consignes qui lui ont été données, sans se poser de questions, sans interroger non seulement sur le bien fondé des ordres reçus, mais sur leurs conséquences. Mieux que cela, nous découvrons un Moïse qui a à cœur de préserver les personnes. Il sait que la loi et le respect de la loi n'est pas le sommet de la vie. L'objet de sa recherche, le cœur de la Torah, n'est pas tant la recherche de comment faire pour être quitte de ses obligations religieuses. Ce n'est pas la vérité au sens d'un savoir particulier non plus, une sorte de définition dernière de la vie. L'objet de sa recherche n'est certainement pas le bouc perdu. Cela l'occupe, mais à vrai dire, il a beaucoup plus important à faire que de trouver le bouc. L'objet de sa recherche, ce n'est pas ce formalisme religieux qui pourrait occulter l'objet véritable de sa quête, l'humain. L'objet de la recherche du croyant est bien l'humain. Les rites, la Torah, tout ce que nous créons en religion n'ont pas d'autre fonction que d'ouvrir un chemin vers l'humain. Qu'il s'agisse des personnes que nous allons rencontrer, ou qu'il s'agisse pour chaque individu de ce moment d'accomplissement qui le distingue du barbare. J'aimerais finir tout simplement en paraphrasant Albert Schweitzer et conclure avec une exhortation qui est à la fois le cœur de la Torah, la perspective de l'Évangile et donc le sens de toute une vie. Cherchez l'homme comme je l'ai cherché et rejoignez-le là où les autres ne le trouveraient plus, dans la boue, la bestialité, le mépris. Allez à lui et soutenez-le jusqu'à ce qu'il redevienne un homme. Amen. Il serait tout à fait inconvenant de ne pas se lever pour le cantique de Luther, et donc prenons la position des ressuscités pour entamer ce cantique. Prenons place. Alors, à l'issue du culte, et en fait à l'issue du dernier cantique qui seront chantés, on m'a recommandé de vous dire de ne pas partir immédiatement. À vrai dire, je n'en sais pas plus. Mon parcours d'agnostic se poursuit. Ce que je sais, je vous le livre, C'est en ce sens que je vous appelle ami. Dimanche prochain, le culte sera présidé par le professeur Laurent Gagnebin, accompagné alors par Aurélien Péter, que nous avons entendu. Nous avons entendu également notre titulaire, Jean-Dominique Pasquier, et le chœur de l'oratoire dirigé par Fabien Aubé. Et peut-être que vous pourriez un peu avancer pour qu'on puisse à la fois vous voir, vous saluer et puis vous remercier parce que vous êtes toujours un peu reclus. Même Jean-Dominique, je crois que je peux m'autoriser à ce genre de choses aujourd'hui, alors j'en profite. Allez, Jean-Dominique, Aurélien, vous venez. Voilà. Voilà. Et je pense qu'on peut aussi les applaudir. À noter aussi que le mois de juillet commençant des études bibliques le mercredi de 12h30 à 13h30 auront lieu pendant les deux mois de juillet et août, et c'est donc Regina Muller qui assurera ces études bibliques en juillet. Le thème requis, c'est appelé et mis en route, et la première rencontre, le 6 juillet, ce sera sur Abraham en Genèse 12, Genèse 15 et Genèse 18. Le comptoir librairie est à votre disposition. Vous y trouverez bien sûr Évangile et Liberté, le documentaire Protestant en France, puis peut-être un petit scoop d'ici quelques mois, à défaut de m'écouter prêcher, vous pourrez peut-être me lire un petit peu aussi. Ça, c'est du teasing. Bien. C'est maintenant le moment de l'offrande. Je ne vous fais pas un dessin, vous savez ce que vous avez à faire. nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous pourrions tout simplement nous contenter de te rendre grâce. Te rendre grâce pour ce que nous recevons en plénitude, les frères et les sœurs, cette richesse humaine qui donne à notre vie de la profondeur, qui élargit l'espace de notre tente, qui nous permet d'exister. Oui, nous rendons grâce pour tous ces bienfaits que tu nous accordes. Cette invitation à ne jamais tenir pour acquis ce que nous comprenons de la vérité, ce que nous comprenons de la vie, ce que nous comprenons de l'autre, ce que nous comprenons de nous-mêmes. Nous te rendons grâce pour toutes ces occasions que tu nous as données, que tu nous donnes encore, de faire de notre histoire un récit merveilleux. Mais nous ne voulons pas simplement prier pour nous. Nous voulons prier aussi pour celles et ceux que tu nous confies et que nous ne connaissons pas forcément. C'est la raison pour laquelle, Éternel, nous te demandons de faire en nous ton œuvre de résurrection. Ouvre notre cœur à ton souffle et que ta puissance de vie soulève tout notre être. Que nous ne vivions pas sans que tu vives en nous. Marque-nous du sceau de ta présence. Fais-nous naître à la vie nouvelle. Rappelle-nous, après Dietrich Bonhoeffer, que l'Église n'est véritablement elle-même que lorsqu'elle est Église pour les autres. Éternel, garde-nous dans la confiance. Garde-nous dans la compassion quand nous désespérons de nous-mêmes ou de nos frères et sœurs, ou si notre vie n'est plus qu'une hésitation. Fais couler en nous un fleuve de vie impétueux. Éternel, éveille-nous au temps de l'épreuve et fais que nous puissions être guérison dans la maladie. Fais que nous puissions être un hôte aux heures de l'abandon. Éternel, fais en nous véritablement ton œuvre de résurrection. Entraîne-nous dans l'amour qui recrée. Donne confiance, mets au large. Entraîne-nous dans l'amour qui dénoue les liens du mal, qui cherche et établit la justice pour tous. Éternel, nous venons vers toi avec les mots que Jésus nous a offerts pour que nous puissions exprimer pleinement l'espérance que tu formes pour nous. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. Le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers nous et nous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut nous ravir. Allons en paix, chers frères et sœurs. Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et avec les absents, avec ceux qui sont dans la joie, avec ceux qui sont dans le chagrin, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, je crois que nous n'avons plus à rougir du talent musical de Westminster. En revanche, ne mollissons pas sur ce dernier cantique. Allons-y, Franco, pour les trois strophes de Confie à Dieu ta route.
Non, non, reste là, reste là.
Je vous invite à prendre place. Voilà, Monsieur le Président, je vous confie l'Assemblée.
Comme tu ne savais pas ce qui allait se passer, je me présente. Je m'appelle André Ducrot. Je ne suis ni roi, ni archiduc, ni prince de sang. Je suis conseiller presbytéral, président de ce conseil. Et bien sûr, aujourd'hui, au nom du conseil presbytéral, au nom de l'entraide, au nom de tous les bénévoles qui ont préparé ce culte, nous tenions à te dire un petit mot particulier à toi et à ta famille. Je m'adresse aussi donc à Sophie, à Clara, à Charlotte et à Sacha. Cher James, chère Sophie, chère Clara, chère Charlotte et chère Sacha, tu vas... Alors oui, mais je regrette, il manque un petit peu des places. Peut-être que vous pourriez... Il peut rester debout. Mon Dieu, ça va être... Je ne serai pas très long, je vous rassure. Tu vas... Aujourd'hui, cher James, me contraindre à faire une chose que je n'aime pas. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Il n'est jamais agréable, en effet, de dire au revoir à une personne avec qui j'ai aimé travailler pendant 7 ans, avec non seulement un grand plaisir, mais une totale confiance, et je dirais en communion d'esprit, telle que... Il s'est établi une relation, comme nous le décrivons dans le dernier numéro de La Feuille Rose, qui fait que dimanche après dimanche, jour après jour, nous avons été heureux d'être avec toi, ici, ensemble, réunis, et de partager ces moments de culte. Malgré ces circonstances et ce qu'à titre personnel, chacun de nous peut ressentir aujourd'hui, je vous propose une chose, c'est de ne pas être triste, et encore moins dans une sorte d'adoration désespérée, James. Je ne m'hasarderai pas à parler trop longtemps de toi, je rassure ainsi tous nos amis présents, ce serait un exercice bien au-delà de mes capacités. Un mot tout de même, sous forme d'une brève et amicale observation te concernant. Dans la vie, nous avons appris qu'il faut parfois se méfier des apparences et de certaines personnalités qui peuvent se révéler finalement un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. Tu es un homme au regard avenant, d'un abord facile, décontracté. Tu es grand, tu es blond, tu as des yeux bleus. Et j'ai pu observer plusieurs fois que ceux-ci peuvent changer très très vite, du bleu le plus souriant et le plus charmant, un bleu acier tranchant lorsque tu es mécontent. Donc, je vais être prudent sur ce que je vais dire. Permets-moi de te dire, James, qu'au fond, tu es, et tu restes, pour moi, mais peut-être je ne suis pas le seul, un être de mystère, quelqu'un d'un peu énigmatique. Il y a, chez toi, comme d'ailleurs chez beaucoup de personnes, une part d'énigme et de réserve, mais... Nous avons constaté que dans bien des occasions, tu as gardé le silence, une réserve prudente, sûrement une grande sagesse sur des sujets sensibles. Cela fait partie de ta personnalité et nous l'avons accepté, bien entendu. Mais cette question restera pour moi sans réponse. Au fond, James, qui es-tu vraiment ? Tu as cité Albert Camus. Eh bien, je vais, heureuse coïncidence, moi aussi je vais le citer. J'aime beaucoup la phrase qu'a écrit Albert Camus, il a dit « Créer, c'est donner une forme à son destin ». Pendant les 7 ans passés parmi nous, et même si dans ton ministère tout n'a pas fonctionné de façon aussi simple et aisée que nous pouvions tous le souhaiter, et j'assure sur ce sujet ma part de responsabilité, tu as fait beaucoup plus qu'accompagner cette communauté. Tu as largement contribué à la développer, à lui donner la croissance et le dynamisme que nous constatons tous, et la preuve, ce dimanche encore, vous êtes si nombreux, tu as profondément marqué cette paroisse. Tu as exercé ton ministère en faisant passer ici le souffle de la jeunesse, dynamique et rafraîchissant, créateur pour nous aider à cheminer, à progresser dans la vie, à partir et en faisant jaillir comme une source ce que chacun de nous, et tu nous l'as dit dimanche après dimanche, ce que chacun de nous possède en lui. Ne faisons donc pas obstacle à l'action divine en nous, et ce matin encore, tu nous l'as redit. Ton attitude a créé une impression générale qui fait que chacun s'est senti ici respecté, apprécié, comme diraient les futurologues de notre société, un peu augmenté. Tu nous as fait partager tant de connaissances de façon lumineuse et inspiratrice. Chacun sait ce qu'il te doit et j'en suis sûr, nous nous en souviendrons tous. Tu as déployé sans compter tes talents de théologien avec une grande pédagogie. La richesse de tes prédications a constitué le plus souvent une analyse superbe et rationnelle de la psychologie humaine et elle a suscité en nous réflexion, questionnement, parfois le dérangement d'ailleurs de nos idées un peu confortablement installées, mais toujours le sentiment de notre responsabilité dans une grande liberté de pensée. Pour tout cela, sois remercié. Si la force de la transmission a un sens, chacun a trouvé dans tes prédications une parole à la fois libératrice, nous faisant comprendre que Dieu n'est pas là pour compter chaque jour nos bonnes ou moins bonnes actions, formatrice, en nous permettant de mieux aborder la lecture et la réflexion d'un passage de la Bible, et parfois surprenante et décapante, les idées, et tu viens de le rappeler aujourd'hui, comme les textes de la Bible, doivent évoluer comme les hommes, avec le temps et dans le temps. Donc, nous devons savoir avancer, évoluer. Après tout, c'est un peu ça aussi, être protestant, savoir avancer, être en recherche, marcher, et avancer. Parfois, tu as accompagné tes prédications par d'étonnantes démonstrations physiques, une sorte de sang et lumière. Ce fut le cas à la Pentecôte, cette année encore, avec des carafes et des récipients. Tu as fait changer les liquides de couleur. Nous nous souvenons aussi de cette extraordinaire prédication où, avec des papiers savamment découpés, tu as fait un tour de prestidigitation du haut de cette chaire. Ce fut chaque fois pour nous la joie d'apprendre, de progresser dans l'amour du prochain et aujourd'hui, avec ton départ de l'oratoire, de faire naître en nous tous les regrets. L'idée d'être des chercheurs de Dieu en donnant à son prochain tout ce que nous pouvons, amour, temps, fraternité, sincérité, attention, tu nous l'as transmis et tu viens de le faire encore aujourd'hui dans ta prédication. C'est désormais dans nos mémoires. Nous allons laisser tout cela infuser, les laisser grandir, ces idées, et puis, bien sûr, surtout, les mettre en pratique, en essayant de les revisiter, de les rénover, de les recréer à notre façon, avec les autres et avec nous-mêmes. Chacun gardera ici de tes... C'est Francine, notre trésorier, qui a compté, donc je suis sûr du chiffre, 167 prédications, quasiment autant de méditations, de lectures bibliques, de commentaires, de prières. Elles seront pour nous et pour nos vies, j'en suis sûr, une source inépuisable d'inspiration. Théologie et communication sont vraiment bien liées et nous allons laisser faire en nous l'esprit et le travail de l'esprit. Comment ne pas évoquer aussi les baptêmes que tu as célébrés ici ? Tous furent éclairés d'une lumière particulière. En étant pour les enfants en tout premier et leur famille, mais aussi pour toute la communauté, un moment de foi et de joie incarnée, vécu presque charnellement par chacun. Pour ces enfants portés très haut dans tes bras, du haut de ta haute silhouette, 1m94 je crois. Ces enfants qui étaient vus, connus par tous, comme rebaptisés en quelque sorte par l'Assemblée. Et comme en plus les baptêmes se terminaient par le chant du cantique 204, inutile de vous dire que personne ne les oubliera. Comment oublier aussi à ta façon de nous faire sourire après le temps des annonces, lorsque l'heure de l'offrande arrive, toujours un bon mot, l'humour au rendez-vous, pour donner messieurs les Rolex, aux dames les bracelets, colliers, cartes bancaires, bref, nos trésoriers, de l'entraide et de la parole, Francine et Christophe te doivent beaucoup. Je ne peux qu'évoquer rapidement et de façon certainement très incomplète et insatisfaisante d'autres aspects de ton ministère. D'abord, ton accompagnement bienveillant pour les familles, pour un baptême, ou pour les jeunes couples qui demandaient la bénédiction de leur mariage et qui ont sûrement trouvé à tes côtés la sérénité et l'approfondissement de leurs réflexions pour concrétiser leur démarche. Je sais, grâce à des témoignages, oui, je me suis renseigné, j'ai pris mes informations, comment tu as accueilli fraternellement ces couples et comment tu as créé avec eux les conditions d'un dialogue à la fois respectueux et nourrissant, en particulier lorsque l'un des deux n'était pas protestant, mais qu'il était agnostique, athée, voire d'une autre confession. La liberté que tu leur as laissée sur les choix des textes bibliques ou non bibliques, lus pendant la cérémonie, a donné lieu à une réflexion ressentie comme parfaitement vraie et sincère. Ainsi, les époux et leurs familles, toutes convictions confondues, ont pu pleinement et sincèrement participer à la bénédiction de mariage de leurs enfants ou de leurs amis. Je soulignerai aussi ton soutien et ta présence auprès des groupes qui ont de bénévoles engagés et qui font vivre cette paroisse et qui font qu'elle est aujourd'hui aussi vivante. Je pense en particulier au groupe protestant des artistes et je salue son président Jean-Marcel Lèbre qui est là. En début de réunion et d'atelier, ils ont partagé avec toi des moments très forts de méditation, de réflexion, de prière que tu leur as proposé. Ce fut pour eux, j'en suis sûr, une source réelle d'inspiration. Tu as été aussi un formidable apporteur d'idées et de propositions qui ont contribué au succès de tous les événements qui se sont produits depuis ton arrivée ici dans la paroisse. Je pense bien sûr à ton action lors de la commémoration du bicentenaire en 2011, bicentenaire de l'affectation de cette église au culte protestant. Je n'ai pas compté le nombre de réunions de lectures bibliques que tu as fait vivre pour les 40 à 50 participants le mardi après-midi, ni toutes les réunions auxquelles tu as participé, les animations sur fréquence protestante et le soin que tu as pris aussi à visiter les personnes malades ou âgées qui ne pouvaient se rendre le dimanche au culte. Enfin, je rappellerai ton action déterminante auprès de tous les jeunes de la paroisse. Ce n'est pas un hasard si nous pouvons, lors des assemblées générales, dire que nous avons enregistré en 2015 l'inscription de 162 jeunes pour la catéchèse et 147 scouts. Merci James de cet apport pour toute la jeunesse qui sont l'Église de demain. J'ai pu aussi partager à tes côtés ta créativité dans les groupes de travail que tu animais, notamment sur deux sujets que nous ont proposés les synodes. Nous avons travaillé l'année dernière sur la réécriture, le mot est peut-être un peu excessif, de nouvelles thèses pour le 21e siècle, dans la perspective de la commémoration du 500e anniversaire de la réforme l'année prochaine, en 2017. L'oratoire a fourni un travail tout à fait remarquable, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site. Et puis, plus récemment, les propositions faites au nom de la paroisse aussi pour la future déclaration de foi de l'Église protestante unie de France. Dans une parfaite compréhension des idées avancées par les uns et par les autres, tu as su faire jaillir et retranscrire un message spirituel et profond, insistant toujours sur le témoignage que nous devons apporter non seulement ici dans l'Église, mais aussi hors de l'Église, dans la cité. Tant d'événements qui se sont déroulés à l'oratoire en ta présence et qui nous ont donné une réelle et profonde joie de vivre ensemble ce moment unique, créateur et de bonheur partagé. Et comme un dernier cadeau que tu nous as offert, eh bien, comme tu étais responsable d'une partie de la communication au sein de cette paroisse, nous avons tous apprécié le nouveau format de la feuille rose, le 807e numéro. Ton ministère, enfin, s'est aussi engagé dans deux engagements que je tiens à citer. en tant que représentant de l'oratoire au conseil d'administration de la Clairière, œuvre sociale à laquelle, bien sûr, notre paroisse est très, très attachée. Je ne sais pas si son président est là, mais je le salue s'il est dans l'Assemblée. Quelles que soient les évolutions et, l'histoire de cette institution, ton engagement a été une façon pour cette paroisse de continuer à proclamer et à incarner l'Évangile, le christianisme social et l'importance que nous devons accorder à notre prochain. Deuxième engagement, en prenant la direction de la publication Évangile et Liberté, tu as confirmé que tu étais un brillant contributeur en faveur de la théologie libérale. Tu as formidablement représenté le protestantisme libéral. Tu lui as fait honneur avec force, pertinence et fidélité. Nous serons toujours heureux de te revoir lors des réunions du comité de rédaction d'Évangile et Liberté. Je profite de cette occasion pour redire que le comité continuera à tenir ses réunions, je l'espère, à l'oratoire du Louvre, et je suis sûr que tu ne manqueras pas, James, d'aller faire une petite visite aux amis du secrétariat qui en seront très, très heureuses. Ce don que tu nous as fait pendant ton ministère ici, tu l'as assuré avec une grande sensibilité, un regard bienveillant et fraternel, et je sais de quoi je parle en disant cela, car ça me concerne tout particulièrement. Un enthousiasme communicatif et toujours avec le sourire. C'était comme si nous étions une grande équipe de foot. Et avec toi, comment ne pas parler de football ? C'est d'actualité en plus. À la fin, c'est l'équipe qui gagne. Pas une star, pas un seul joueur, pas une seule personne. C'est toute l'équipe. Parce qu'à la fin des cultes, nous sortions tous heureux, enrichis d'idées nouvelles, comme je disais tout à l'heure, un peu augmenté, avec tant de choses à partager sur ta prédication. Avec nous, tu as joué collectif pour tout ceci. Sois chaleureusement et fraternellement remercié. Le temps de le revoir arrive et le sentiment est vivant en chacun de nous d'avoir tant de choses encore à te dire, à partager avec toi. Et vous allez pouvoir le faire dans un moment, je vous rassure, je ne serai pas très long. Puisqu'il faut se résoudre à se quitter avec l'amer sentiment de ne pas avoir assez entendu tout ce que tu as à nous dire, sache que nous serons toujours heureux de t'accueillir ici en tant que pasteur invité, quand le moment viendra, après un certain temps. Puisque tu as décidé de poursuivre ton ministère à Montpellier, ville dont je n'ai pas peur de prononcer le nom et qui est chère à mon cœur en plus. C'est ton choix, même s'il est douloureux pour nous, il s'impose. Nous le respectons et nous souhaitons à ta famille et à toi de l'accomplir dans tout le bonheur possible. Je terminerai aussi en m'adressant à celles et ceux qui partagent ta vie, parce que leur vie a été impactée par ton ministère. Et tout le temps que tu nous as consacré, réunions, services, cultes et autres activités, c'est du temps que tu leur as pris en quelque sorte. Et ce fut pour nous le donner. Donc merci à vous quatre d'avoir été si patients avec cette paroisse. Grand merci à Sophie qui a participé à tant de repas, que ce soit les repas de paroisse ou les repas du CASP. Grand merci aussi à Charlotte, qui, j'en suis sûr, la douce et discrète Charlotte, qui, j'en suis sûr, cache un joli tempérament. Et aussi à Charlotte, qui est née en même temps qu'une autre Charlotte, princesse royale, décidément, nous n'en sortons pas aujourd'hui, et qui, comme elle, j'en suis sûr, sera promise un formidable avenir. Enfin, il y a le sympathique Sacha, parfois rappelé à l'ordre par un paternel avertissement depuis cette chaire, pour une leçon insuffisamment apprise ou un devoir inachevé. Sacha, je veux te dire une chose. Dans ces moments-là, tu n'étais pas seul. Nous nous donnions des coups de coude avec certains conseillers de dire « Tiens, c'est du vécu, mais nous avons été comme toi, nous avons bâclé des devoirs et nous sommes partis quelquefois sans trop bien savoir nos leçons. » Tu n'étais pas seul. Nous espérons que cette étape à l'oratoire restera pour toi, pour ta famille, une belle étape, marquante, positive. Et je sais que pour nous, ton ministère le restera dans la vie de cette paroisse. Et contrairement à ce que des amis tout à l'heure en rentrant me disaient, Brexit, Woodxit, non, je leur ai dit non, je ne me résous pas à dire qu'il s'agit d'un Woodxit. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, le fil n'est jamais complètement rompu, donc, comme on dit chez moi dans le Midi, il ne faut pas fatiguer l'avenir, nous verrons bien. Nous associerons à ce moment les pensées du pasteur Pernaud qui, pendant 7 ans, a dit ce qu'il avait retenu de ton ministère du haut de cette chaire. Que Dieu vous accompagne dans cette nouvelle étape de votre vie et qu'il bénisse ton ministère à Montpellier. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire en toute simplicité, avec mes mots, ce que je voulais dire à James et pour leur exprimer notre amitié, notre reconnaissance et, je n'ai pas peur de dire, notre affection. Mais j'entends comme une musique des années 70 qui nous venait déjà d'Angleterre, même s'ils ont la mauvaise idée de vouloir nous quitter, et qui a déferlé sur le monde. Et au fond, quel que soit notre âge, quelles que soient nos préférences musicales, nous aimons tous le groupe qui chante, les Rolling Stones. Je sais que tu les aimes beaucoup, moi aussi d'ailleurs. Et ils chantent « Goodbye, Ruby Tuesday ». Vous savez, c'est une très jolie mélodie qu'avait composée Mick Jagger. Alors, comme une pierre qui roule, tu vas à Montpellier, nous te disons, cher James, bon vent. James, et à ta famille, « Goodbye, Mr. Woody, goodbye ». Je ne vous libère pas tout de suite. Je ne veux pas interrompre ces applaudissements fraternels. Je vous invite à vous rasseoir parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Il y a quand même des témoignages plus concrets, plus substantiels que nous souhaitons offrir. Alors je vais d'abord appeler Odile Mallet qui voudrait, au nom d'un groupe de travail de l'atelier Reliure, qui d'ailleurs rénove, et j'en profite pour leur dire un immense merci, elle rénove les cantiques que nous utilisons tous les dimanches et merci à tous ces bénévoles. Et Odile voulait te remettre un souvenir. Et puis maintenant, merci Odile, et maintenant je voudrais appeler Francine Bronstein, notre trésorier, qui voudrait aussi remettre un certain nombre de souvenirs plus concrets de la paroisse, au nom de toute la paroisse.
Je vais commencer, si vous le voulez bien, par la plus jeune, par Charlotte. Un jouet pour Charlotte. Tu vois, Charlotte, tu vas l'ouvrir à Montpellier et puis tu tâcheras d'oublier Paris. Toutes les misères qu'on t'a fait à Paris et tu verras qu'à Montpellier, il fait beau, il y a des palmiers, la vie est belle. Et surtout, plus de cauchemars, Paris, c'est fini. Tu t'en vas dans 2 jours. Et tu seras à Montpellier. Un pré. Alors, par ordre, ben oui, par ordre. Un Clara, une clé. Voilà, qui se va aussi bien sur ton iPhone, sur ton portable, et un petit zigouille là pour l'accrocher, pour que tu ne perdes pas ta clé, et comme ça tu resteras relié à Paris et à l'oratoire. Alors après. Oh, si tu veux, toi, tu fais absolument comme tu veux. Alors attends, Sacha, il a deux choses. Sacha, il a un petit clin d'œil parisien et tu as des DVD d'Éric Antoine que tu avais demandé. Voilà. Alors, après, que tu souhaitais, voilà. Alors, après, c'est Sophie. Eh bien, Sophie, tu sais que, André te l'a dit, tu sais combien on est reconnaissant de tout ce que tu as fait. On voulait donner plein de fleurs, mais on a dit que dans le déménagement, ça ne serait pas commode. Donc, on a choisi un camélia blanc, juste le camélia blanc de Chanel, avec ton parfum. Après, alors après, ça vient. Oh, j'ai pas de lunettes. Un cadeau pour James de la part d'un de vos, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, de Raphaël Passerin, voilà. Au nom de, pour vous, on n'a pas cherché d'idées. Et on savait que vous aviez des besoins et que vous auriez envie de plein de choses. Donc on a fait un cadeau commun où tous les paroissiens se sont regroupés. Et au nom de toute la paroisse, je vous remets ce chèque. Je pense que vous saurez l'utiliser. Mais ce chèque n'est rien s'il n'était accompagné de ce livre d'or. Vous voyez qu'il pèse son poids parce que chacun a pu y inscrire dedans ce qu'il voulait. Ce livre d'or commence en première page par un dessin de Philippe Bronstein. Il est introduit par un texte concocté avec Françoise Majal et recopié par Philippe avec sa belle écriture. Après, chacun vous exprime tout ce qu'il vous doit. Vous en avez, même jusqu'ici, jusqu'à la fin. Après, on vous a mis un peu d'historique de vos sept années passées ici. Donc, vous finissez par ce que André, l'inculte d'André. Et alors, Nicole, Aymar, Catherine Dujardin et Isabelle Appia vous ont fait l'historique, reconstitué toutes vos, tout ce que vous avez fait en offrant, en baptême, en cérémonie, en profession de foi. Vous aurez un historique complet de tout ce que vous avez fait et on vous finit par le culte d'aujourd'hui, la liturgie. Et nous vous avons laissé quelques pages vides parce que Karine Bouvatier prend des photos et on la remercie. Et vous pourrez terminer comme ça le livre d'or avec des photos de cette journée. Comme ça, vous aurez tout ce que les paroissiens ont à vous dire et notre reconnaissance totale.
Bien, donc après ce panégyrique en bonne et due forme, ce qui me confirme bien dans la tonalité générale de ce culte, je voudrais juste dire quelques mots. Tout d'abord revenir sur ces remerciements qui ont été adressés à ceux-là, parce qu'effectivement ils m'ont vraiment rendu disponible pour l'oratoire et ils l'ont fait de bon gré, mais j'en ont certainement pâti aussi. Et voilà, donc j'en suis conscient et je voulais juste vous dire merci. Voilà. Et c'est vrai que je ne me livre pas beaucoup, c'est ma façon de comprendre l'exercice du ministère pastoral. Je suis là pour vous rendre service et pas pour m'imposer à vous, mais un peu d'intimité ne nuira pas et j'aimerais en famille dire à quel point Je suis fier de Sacha et Clara en particulier. Je sais que je ne les ai pas ménagés sur la question scolaire et ils ont fait de très belles choses. Et voilà, je voulais vous dire publiquement à quel point je suis fier de vous deux. Et de Charlotte, c'est évident, mais elle le saura plus tard. Et puis très rapidement, très simplement et très intensément, vous dire tout simplement que je vous aime. Voilà. Il va de soi que la question du souvenir que j'emporte de vous ne se pose pas. Je n'ai d'ailleurs pas l'impression de vous quitter, à vrai dire. Je serai donc tout à fait en mesure de vous dire au revoir aussi souvent que possible. Je n'ai pas vu passer ces 7 années, et d'un autre côté, peut-être ne devrais-je pas le dire, mais j'ai l'impression d'avoir tout le temps été pasteur à l'oratoire du Louvre. Voilà, c'est dire que je m'y sens bien et que je m'y sentirai à nouveau bien dans l'avenir. Et autre chose, je devrais dire merci individuellement à beaucoup de personnes, je le ferai tout à l'heure, j'espère. Je voudrais vous dire à quel point vous avez une chance unique d'être ce que vous êtes. Je veux dire, du haut de la chair, c'est un visage d'église magnifique. Je ne saurais rêver de plus belle communauté. Alors on m'a dit, mais non, tu verras, plus tard, ce sera bien aussi. J'ai l'intuition que, voilà, c'est un sommet, il faut le prendre tel quel. Voilà, vous êtes une paroisse magnifique, sachez en profiter aussi. La présence du pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, m'invite à vous dire à quel point notre communauté a une place décisive dans le concert des religions et notamment au sein de la Fédération protestante de France pour y assurer l'unité de notre protestantisme dans sa diversité et dans son pluralisme. Et surtout dans un esprit d'ouverture à d'autres préoccupations que les nôtres. Et quand je dis que cette paroisse a aussi de belles ressources en son sein, bien sûr, le conseil presbytéral et le conseil de l'entraide sont deux poumons à la fois indispensables et efficaces, mais je m'autorise aussi à relever les talents et l'engagement tout particulier de Francine, qui travaille dans l'ombre en accomplissant peut-être une sorte de 3-8 à elle toute seule. C'est-à-dire qu'elle est capable d'être dans la journée à l'oratoire, d'être le soir à préparer des repas pour la suite et pendant la nuit à se demander comment elle va préparer l'animation du conseil presbytéral et régler toutes les tâches administratives qui font que nos commissaires aux comptes n'ont pas trop à lui faire de rotomontade. Bien. Je crois que maintenant le moment, ça va être aussi de pouvoir se témoigner un peu d'affection charnelle et voilà qu'on puisse garder le plus de temps possible pour le contact physique. Je précise que le temple doit être remis en état concert pour 14 heures et qu'il serait bienvenu pour notre sacristain chéri, à qui j'adresse une pensée toute particulière, de l'aider à remettre les chaises à un moment donné. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres consignes à donner.